Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de l'Église Hillsong France. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter www.hillsong.fr.
Papa, tu es le premier qui a fait ce premier pas pour restaurer la relation avec nous. Et Seigneur, tu veux que nous soyons dans ce monde comme des flambeaux et des lumières, qu'apportons ce message d'espérance que les relations c'est tellement précieux à ton cœur et que tu as des solutions pour chacune de nos vies. Seigneur, tu sais tous ceux qui sont là, tu sais les situations compliquées pour beaucoup. Seigneur, je prie qu'au travers de ce que je vais partager, il y ait une clé que chacun reçoive pour avancer sur le chemin de la victoire dans le domaine des relations. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant que je connaisse Pascal, donc ça fait une petite paire d'années, je me suis retrouvée à un moment donné à la tête d'un groupe de jeunes et j'ai pris cette responsabilité très au sérieux. J'ai passé beaucoup de temps à concocter tout un programme, une organisation et j'en étais assez fière, j'avoue. Et puis ensuite, pour moi, il suffisait que chacun joue son rôle pour que tout s'emboîte à merveille et fonctionne super bien. Sauf que j'ai trouvé que certains semblaient prendre leur rôle un peu à la légère. Et je trouvais même qu'il y en avait certains qui faisaient preuve d'un peu de mauvaise volonté. Alors, j'ai essayé d'être la plus diplomate possible pour dire comment faire les choses pour que ça se passe bien. Mais il y avait des moments au fond de moi où j'étais découragée ou alors j'étais agacée, en fait. Et j'avais le sentiment que leur attitude m'empêchait d'atteindre les objectifs fixés. Et je me suis pris une sacrée claque. Le jour où, à un moment donné, il y en a quelques-uns qui m'ont fait un feedback, un peu cash, comme savent faire les jeunes, hein, n'est-ce pas? Et ce feedback remettait en cause non pas mes bonnes idées ou mes capacités d'organisation, mais mon savoir-être. Et alors là, sur le moment, ça m'a tellement perturbée que je me suis sentie perdue et que je ne savais plus trop bien ce qu'on attendait de moi. Et il m'a fallu plusieurs épisodes comme ça dans ma vie pour que le Seigneur révolutionne totalement ma façon d'être et aussi ma compréhension des relations. Et surtout pour que je comprenne à quel point les relations, c'est primordial pour lui. Il faut dire que moi, je ne me suis pas construite dans un contexte familial où les relations étaient belles, épanouissantes et fluides. C'était au contraire un peu compliqué, un peu douloureux. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, entre mon frère et moi, ce n'était pas vraiment l'amour fou. Déjà, on était tellement différents de personnalité et de caractère. Mais en plus, l'insécurité affective que chacun de nous deux ressentait, ça amplifiait la jalousie un peu latente qu'il y avait entre nous. Et alors, parfois, quand je voyais dans une autre famille de l'entraide, du respect, de la solidarité, de l'affection, c'était waouh, c'était comme un idéal pour moi, quoi. Un truc genre la petite maison dans la prairie, quoi. Alors, c'est vrai que la rivalité entre frères et sœurs, bon, c'est un grand classique, hein. C'est jamais facile d'être le premier, d'être le deuxième, d'être le troisième, d'être le quatrième, etc. C'est jamais facile de se faire sa place, hein. Et puis, s'il y en a qui sont parents au milieu de nous, vous l'avez certainement expérimenté. Parfois, une simple part de gâteau ou une petite attention particulière pour l'un suffit à réactiver pour l'autre cette question existentielle. Qui est le préféré de papa? Qui est le préféré de maman? Et des fois, c'est un peu relou pour nous les parents, n'est-ce pas? Il arrive même parfois qu'en tant que parent, par ignorance et sans le savoir, on encourage en fait cette rivalité entre nos enfants parce qu'on les compare. Eh, sois sage comme ton frère. Eh, regarde ta sœur, elle, au moins on peut compter sur elle. C'est pas très top, n'est-ce pas? Et peut-être que vous-même, je ne sais pas d'où vous venez, mais peut-être que vous avez souffert parce que votre sœur, elle était envieuse et elle vous envoyait sans cesse des petits pics. Ou peut-être que vous étiez jaloux des qualités de votre grand frère. Ou peut-être même qu'un de vos parents faisait du favoritisme et ça, ça a été tellement douloureux. Et on sait tous, en fait, même si on a eu une enfance qui était belle et protégée, on sait tous combien la rivalité peut faire des ravages au sein d'une équipe, que ça peut même détruire une famille quand des enfants se déchirent autour d'un testament. C'est un grand classique, ça, cette rivalité. Et si on élargit un peu cette notion de rivalité et qu'on pense à nos relations dans l'Église, des relations que la Bible décrit comme fraternelles, est-ce que ce serait possible qu'on y retrouve les mêmes enjeux d'envie, de lutte de pouvoir, de compétition, de jalousie? Est-ce que des fois on n'est pas en train de nous mesurer les uns aux autres? Non, bien sûr que non. Pas à Paris, en tout cas, pas chez nous. Mais c'était le cas dans les églises que supervisait l'apôtre Paul, puisqu'il parle à plusieurs reprises et il nous met en garde contre cette rivalité. Beaucoup, beaucoup plus tabou que les relations fraternelles. Est-ce que la rivalité peut affecter la relation entre un parent et son enfant? Un père qui dénigre systématiquement les choix de son fils, ou qui le rabaisse, soi-disant pour lui apprendre à donner le meilleur de lui-même, mais qui en réalité ne supporterait pas que son fils ait plus de succès que lui-même, ou que son fils réussisse là où il a échoué lui-même. Ou peut-être une mère envieuse, jalouse de sa propre fille parce que sa fille vit ce qu'elle n'a pas pu vivre ou ce qu'elle n'a pas pu avoir. Ça peut être tellement subtil des fois. Bon, heureusement, on n'a pas tous grandi dans un climat aussi délétère, mais parfois avec nos enfants, quand on dit « c'est pas toi qui vas faire la loi ici », est-ce qu'on n'est pas en train d'instaurer un rapport de force, de compétition, au lieu juste de chercher à comprendre qu'est-ce que son attitude exprime pour lui apporter la bonne réponse, celle qui va le construire ? C'est tellement subtil, cette notion de compétition. Et si on allait plus loin, peut-être je vais vous choquer, on parle de la rivalité dans le couple ? Non ! Mais non ! Ça colle pas avec l'image romantique et naïve qu'on a de l'amour dans le couple. Ok, fermez vos oreilles. Et puis les plus courageux, vous restez avec moi. On en parle de la rivalité dans le couple ? Quant à compétences équivalentes, il y en a un qui gagne beaucoup mieux ou qui a un job beaucoup plus enthousiasmant. Ou alors ça fait quoi quand c'est toujours le même qui est mis en avant et pas l'autre ? Et puis, quand c'est toujours l'autre qui semble avoir plus d'amis, de succès, de popularité, ou peut-être qu'il a simplement plus d'affection de la part des enfants, ça fait quoi ? En fait, on a envie que l'autre nous aime, mais on a aussi envie qu'il nous admire un petit peu, et ça, c'est pas la même chose. Et alors, du coup, on l'avouerait pas, même sous la torture, mais ça peut arriver que parfois on veuille surpasser l'autre. C'est secret, évidemment, mais on voudrait prouver qu'on est meilleur que lui dans tel domaine. Plus spirituel, plus consacré ou plus compétent, ou peut-être plus investi. Vous ne me croyez pas ? Mais quand on veut tout contrôler pour que les choses soient faites à sa façon, quand on s'obstine à avoir toujours le dernier mot quitte à abîmer la relation, ou quand on cherche à convaincre absolument que sa façon de voir ou de faire est plus intelligente que celle de l'autre, est-ce qu'on n'est pas dans la compétition ? Moi je dis ça, je dis rien. Moi je dis juste que si on avait le courage de regarder d'un petit peu plus près, en fait, la rivalité empoisonne bien plus qu'on ne l'imagine toutes nos relations. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Combien est-ce qu'il y a de conflits et de divisions ? Parce qu'au fond de soi, on envie l'autre. On envie qui il est ou on envie ce qu'il a. Et ça, c'est comme un poison. Ça peut faire exploser une équipe, ça peut diviser une église, ça peut engendrer des conflits entre deux pays. C'est un obstacle majeur pour vivre des belles relations épanouissante et saine. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul le décrit plusieurs fois quand il parle à l'église de Corinthe, de Philippe, de Galatie. Il dénonce les conséquences, l'amertume, les divisions, l'incompréhension, les discordes, etc. Et je vous propose de commencer par ce verset dans Philippiens 2 au verset 3 et 4 qui dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. » Et moi, ce verset, c'est un petit peu comme les ingrédients d'un produit. C'est classé par ordre d'importance. Et la première recommandation, c'est quoi ? C'est « ne faites rien par esprit de rivalité ». Ok ! Mais on fait comment pour plus être manipulé par ça ? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, en 8 étapes, avec l'histoire d'un champion de la rivalité, j'ai nommé Jacob. On va prendre son histoire dans Genèse 25, au verset 21. Je commence. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière, et sa femme Rebecca devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre, et elle s'écria « Oh my gosh, mais qu'est-ce qu'il m'arrive ?» Déjà un bébé qui gigote et qui te donne un bon coup de pied dans les côtes. Si vous avez vécu, c'est pas très agréable. Mais être réveillé en sursaut par deux bébés qui prennent ton ventre pour un ring de boxe, franchement, bing, uppercut, pousse-toi de la mec qui se battait dans son ventre. Elle a pas dû dormir beaucoup les derniers mois de sa grossesse, Rebecca. Elle a franchement pas dû dormir beaucoup, j'imagine là. Hey, les gars, mais calmez-vous, maman veut dormir, vous comprenez ce que ça veut dire ? Ben non, ne comprenez pas, c'était pas très efficace. Alors, Rebecca est une jeune femme désemparée. Et là, je fais un aparté. Qu'est-ce que va faire Rebecca ? Elle va chercher à comprendre spirituellement ce qui se passe. Parce que la suite du verset nous dit « Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit « Il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples différents naîtront de toi. L'un sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. » Et mon aparté, c'est ça, c'est déjà de dire « Vous les mamans, quand vous avez l'intuition que quelque chose ne va pas avec l'un de vos enfants, faites-vous confiance, prenez de la hauteur, cherchez à comprendre ce qui se passe d'un point de vue spirituel, quitte à aller chercher un regard extérieur, comme l'a fait Rebecca. Maintenant, je reviens à Jacob. Ce serait trop long de lire toute son histoire, ça dure plusieurs chapitres, alors je vais vous la raconter. Je trouve que déjà sa naissance est très révélatrice de cette compétition. Il y a le premier jumeau qui sort péniblement, et puis l'autre, il le retient par le talon comme pour le tirer en arrière et pour dire « Non, non, c'est moi le premier, moi d'abord, moi Prums !» Franchement, on a souvent vu des frères se bagarrer ou se chipoter, mais là je trouve que ça a vraiment commencé tôt, la rivalité entre eux, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, en fait, c'est même intéressant de noter que ça a commencé in utero, cette rivalité. Alors, petite question. Quand Dieu dévoile à Rebecca par le biais de la prophétie, quelle sera la destinée de Jacob? Ou alors, dans Malachie 1, on voit aussi dans Romains 9, 13, Dieu qui dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Waouh! Peut-on soupçonner Dieu d'injustice et croire qu'il fait du favoritisme? Moi, j'affirme que non, parce que simplement, dans 2 Chroniques 19, 7, la Bible nous dit « Il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni injustice, ni favoritisme ». Alors, comment expliquer ça? Je vais vous expliquer comment je le comprends. Imaginez que vous ayez fondé votre propre entreprise, une entreprise de construction de bateaux. Vous avez 2 fils, vous les aimez pareillement, vraiment. C'est la chair de votre chair. L'aîné, lui, ne pense qu'à s'amuser. Fun, foot, femme et compagnie. Tandis que le deuxième, lui, en fait, depuis tout petit, il se passionne pour l'aérodynamique, il construit des maquettes de voiliers, il n'arrête pas de vous poser des questions sur le comment du pourquoi. À votre avis, quand il s'agira de transmettre votre entreprise, lequel va avoir votre préférence? C'est pareil pour Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'est pas dans le même rapport autant que nous, il discerne déjà dans le ventre de la maman les choix que fera l'un et les choix que fera l'autre. Et c'est en ce sens-là que Jacob a sa préférence. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de destinée. Parce que l'amour, il est inconditionnel, l'amour de Dieu est inconditionnel pour chacun de nous. Et ça, c'est notre première étape. Je vous ai dit qu'on allait faire 8 étapes. C'est si tu veux bannir l'esprit de rivalité dans ton cœur, la première étape, c'est de croire qu'en Dieu, il n'y a ni injustice, ni favoritisme. Et si à cause de ton histoire ou peut-être de la défaillance d'un de tes parents, il y a un mensonge qui s'est implanté en toi, si tu crois que Dieu il a ses petits chouchous, qu'il veut bénir l'autre mais pas toi, qu'il n'est pas intéressé par ta vie, ça c'est un mensonge. Et la première étape pour toi, c'est premièrement d'en prendre conscience et deuxièmement de renoncer à ce mensonge. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel pour chacun de nous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une nuance. C'est vrai que les choix que nous allons faire amènent ou pas la faveur de Dieu sur notre vie. Et ça, c'est la petite différence, si vous voulez. Les choix que je vais faire amènent la faveur de Dieu ou pas sur ma vie. Et ça, c'est une réalité, mais ça n'est pas une fatalité. Ça veut dire que si tu réalises que jusqu'à présent, tu n'as pas fait les bons choix, à la fin du message, tu pourras inverser le cours de ta vie. Quand Dieu regarde Ésaü, qu'est-ce qu'il voit? Il discerne que Ésaü, c'est l'homme des satisfactions immédiates, celui qui méprisera les choses spirituelles. Lui, c'est du sport, de la bonne bouffe, des femmes, mais alors surtout pas de frustration. Et puis quand Dieu regarde Jacob, qu'est-ce qu'il voit? Waouh, il se dit, mais qu'est-ce que j'aime ce gars! Waouh, je vois de la passion chez lui, je vois qu'il a soif des choses spirituelles, je vois son désir d'élargir ses limites, son envie de rêver grand, j'aime ça, se dit Dieu. Et puis il se dit, oh, mais j'aimerais tellement, tellement avoir tout un peuple qui lui ressemble. Des hommes et des femmes assoiffés des choses spirituelles, passionnés, capables de dépasser les limites de l'entendement par la foi, capables de rêver grand. Et c'est en ce sens-là, c'est une question de destinée. C'est pour ça que Jacob a sa préférence à cause de ses choix. Et ça nous amène à notre deuxième étape. Quelle est ta soif? Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit en toi? Est-ce que tu es comme Jacob, assoiffé des choses spirituelles, prêt à souffrir un inconfort immédiat parce que tu rêves plus grand? Ou est-ce que tu es comme Ésaü et ses célèbres lentilles que tout le monde connaît? Tu veux la satisfaction de tes besoins immédiates et puis demain tu t'en fiches un peu, quoi. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit chez toi un Jacob qui visionne, qui voit loin, qui rêve grand, qui a soif de spirituel parce qu'il a compris la suprématie du spirituel sur le matériel? Jacob, c'est un homme de foi. Il ne se laissera pas décourager par les obstacles. Et Dieu se dit, waouh, qu'est-ce que j'aime ça chez lui, j'aime vraiment ça. Le problème, le très léger problème, c'est que Dieu qui voit au fond des cœurs se dit, mais ce gars, il est formidable. Seulement, il est animé par un esprit de rivalité qui parasite tout. Et ça, c'est juste pas possible. Comment je vais faire, se dit Dieu? Comprenons-nous bien, ce n'est pas le désir de prospérer de Jacob qui pose problème. Parce que quelle que soit la sphère dans laquelle on évolue, les arts, l'éducation, la politique, nous désirons tous prospérer et c'est légitime, Dieu le désire aussi. Ce n'est pas de vouloir prospérer qui pose problème. Le problème de Jacob, c'est sa motivation. En fait, Jacob se définit en fonction des autres, c'est-à-dire qu'il veut être à la place d'Ésaü et même le surpasser. Il veut avoir autant que Laban et même le surpasser. Et c'est cette motivation qui pose problème à Dieu. Alors il est là, j'imagine, dans le ciel, se dire « Waouh, comment je vais faire ? Parce que ce gars, il est tellement précieux, comment je vais m'y prendre ?» Et on arrive à la troisième étape de notre cheminement intérieur. C'est « Dieu veut purifier nos motivations ». Et quand il t'a choisi tel que tu étais et il t'a aimé tel que tu étais. Mais comme on dit souvent, il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes, voyez. Et donc il va faire un travail parce qu'il se dit, ce gars, cette fille, mais c'est un trésor, je le veux pour moi. Simplement, c'est comme quand un chercheur trouve un diamant. Au début, le diamant, ça ressemble à un caillou un peu brut, on pourrait même passer à côté sans le remarquer. Et le diamantaire, il va avoir un sacré travail pour le cliver, le scier, le faster, le polir, pour que quelques années plus tard, le diamant étincelle dans une vitrine. Dieu veut faire pareil avec nous. Quand il trouve le diamant brut, il sait que c'est un trésor. Mais après, il va faire tout ce travail de diamantaire pour pouvoir se servir de nous et refléter sa gloire au travers de nous. Alors, comment Dieu s'y prend ? En fait, dans un premier temps, dans l'histoire, on voit que Dieu laisse Jacob patauger tout seul. Il a donné une prophétie, puis disparaît de la scène. Et parfois, c'est pareil dans nos vies. Parfois, Dieu donne un appel incroyable sur nos vies, et puis hop, silence radio. C'est comme s'il nous laissait nous dépatouiller tout seul. Et pourquoi ? C'est justement à cause de nos motivations. Parce que lui, il sait qu'on est plus avide de sa bénédiction sur nos vies que de sa présence dans nos vies. Alors il va avoir un sacré travail à faire pour nous amener à ce niveau-là. Et lui, il le sait, mais pas nous. Alors nous, on est un petit peu comme Jacob, souvent on est comme un cheval sauvage, fougueux, passionné. Et Jacob, il va vouloir faire les choses à sa façon, parce qu'il s'est approprié la prophétie de Dieu sur sa vie. Seulement là, on va constater qu'il s'embourbe dans des magouilles pas très claires, des histoires un peu cheloues, comme diraient mes enfants. Mais ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est pas le côté businessman de Jacob, c'est de voir à quel point ce qui anime Jacob va impacter ses relations. Parce qu'en fait, si vous lisez son histoire, sa vie est un fiasco relationnel. Franchement, l'histoire de sa famille, c'est pas ce qu'on peut appeler des relations saines et épanouissantes. Regardons ensemble. Manipulation, querelle, rupture avec son frère, trahison, rupture avec son père, fuite, du coup rupture avec sa mère. Jacob va trouver refuge loin, 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 chez son oncle Laban. Comme nous, bien souvent. Quand on veut oublier ce dont on n'est pas très fier, on s'improvise une nouvelle vie, on tente un nouveau départ. Sauf que fuir n'est pas la bonne solution. Parce que le problème, le très léger problème, c'est que partout où Jacob va, il amène avec lui cet esprit qui l'anime. Et dans ce nouvel environnement chez son oncle, alors qu'on l'avait accueilli à bras ouverts, qu'est-ce qu'on voit ? Cette rivalité commence à déteindre sur les relations avec les autres, à empoisonner la relation avec son oncle et même avec les fils de Laban. En fait, on voit que prospérer ne satisfait pas Jacob. Il veut plus qu'eux. C'est comme si la vie était une compétition où il faut toujours être le premier, toujours être devant les autres pour se sentir important. Waouh ! Peut-être que pour se sentir important, il a besoin de se sentir devant les autres. Ah tiens, et si derrière son ambition dévorante, en fait, se cachait une problématique d'identité ? J'y reviendrai après. Alors, que fait Jacob quand il est chez Laban ? Moi, ça me fait tellement rire cet épisode. Je l'imagine, il est omnubilé par le chiffre. Plus, toujours plus, toujours plus. Je l'imagine avec son petit calepin. Et il est en train de noter les moutons, là. Alors, les rayés, les tachetés, les foncés. Vous lirez l'histoire si vous ne la connaissez pas. Mais il y avait un deal avec son oncle. Et lui était censé prendre les brebis les plus foncées. Mais en fait, tous les deux, ils se sont trompés. Enfin, c'est vraiment cocasse. Est-ce qu'on pourrait condamner Jacob pour son côté un peu filou ? Moi, je trouve que sa vie, elle illustre tellement les tiraillements que nous avons à l'intérieur de nous. Peut-être que parfois, nous aussi, pour avoir le sentiment d'exister, on a besoin de se sentir important aux yeux des autres. Et du coup, on peut avoir toutes sortes de stratégies relationnelles pour se donner l'impression qu'on est important. Et du coup, pour se donner l'impression qu'on existe. Peut-être que ce n'est pas la bonne réponse. Parce qu'on voit que pendant que Jacob court après le succès, ce qu'on constate autour de lui, c'est que les relations, elles s'effritent, elles se disloquent. Les tensions s'amplifient autour de lui. Et puis on dirait quand même que Jacob, lui, tellement focus sur le succès qu'il n'accorde pas beaucoup d'importance à ce détail. En fait, je l'ai déjà dit, vouloir réussir, c'est pas le problème. Sauf que pour Dieu, la qualité de ma relation avec les autres passe avant tout. 1 Corinthiens 13, vous connaissez tous, si c'est pas l'amour qui m'anime, tout ce dont je suis le plus fier, poubelle. Vous connaissez aussi le plus grand des commandements, aime le Seigneur ton Dieu, ton prochain comme toi-même. L'évangile est résumé dans une question de relation. Donc ce n'est pas le vouloir réussir le problème. Le problème, c'est que ça passe pour lui avant la qualité des relations. Et ça nous amène au quatrième point. Quel climat relationnel je crée autour de moi ? Est-ce que atteindre mes objectifs est plus important pour moi que la bonne santé de mes relations ? Quel soin, quelle importance j'accorde à mes relations ? Est-ce que c'est secondaire ou est-ce que c'est prioritaire ? Et quand mes relations se disloquent un peu, se distendent, ou que mes amis s'éloignent, ou que peut-être que c'est la guerre à ma maison, est-ce que ça ne pourrait pas être en partie alimenté par ce qui m'anime ? Oh, purée, ça pique là. Il faut beaucoup de courage pour oser se poser cette question. Quel climat relationnel j'instaure autour de moi ? Mais quand on regarde la vie de Jacob, on voit à quel point sa vie illustre que l'esprit qui nous anime, quel qu'il soit, aujourd'hui je parle de la rivalité, que l'esprit qui nous anime déteint sur notre entourage. Parce qu'une nouvelle fois, Jacob va devoir fuir les dégâts engendrés par son attitude et de nouveau rupture brutale, mais cette fois-ci c'est avec sa belle famille. Sauf que c'est une solution de facilité et fuir n'est jamais la bonne solution. Et ça nous amène à notre cinquième point. Fuir la réalité de sa vie ou se fuir soi-même n'est jamais la bonne solution. Parce qu'en fait, Jacob ne confronte pas ce qui cloche. Pourtant, c'est flagrant. Il contamine toutes ses relations avec cet esprit de rivalité. Regardez, il va épouser qui ? Deux sœurs. Déjà, c'est une belle image de cette dualité qu'il habite, n'est-ce pas ? Deux sœurs. Peut-être que ces deux sœurs, elles s'aimaient de tout leur cœur auparavant. Mais maintenant que Jacob est entré dans leur vie, elles sont devenues rivales, l'une envers l'autre. Waouh ! Et puis, c'est pas tout. Parce que notre style relationnel déteint sur tous ceux qui sont sous notre leadership. Et on voit que ces deux sœurs entrent à leur tour en compétition avec leurs deux servantes. Et leurs deux servantes, évidemment, vont être contaminées par cette rivalité. Et ça va être la guerre des clans dans cette famille. Et c'est pas tout. C'est un vrai bonheur d'étudier les relations dans cette famille. Toutes nos relations sont impactées. On voit que ça descend en cascade sur la génération suivante. Parce que Jacob va transmettre cet esprit de rivalité à ses descendants. Et ses fils vont s'entre-déchirer de manière dramatique. C'est l'histoire tragique de Joseph. Vous la lirez si vous ne la connaissez pas. Et ça brisera même son cœur à Jacob quelques années plus tard. En fait, Jacob n'est pas un mauvais bougre, hein. Ok, il est un peu stratège, il est un peu filou sur les bords, ok, il est un peu fatigant avec son désir de toujours vouloir être devant. Ok, ce serait intéressant de se pencher sur l'insécurité qui habite son cœur, toutes les peurs qui sont à l'intérieur. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais ce serait aussi intéressant de comprendre les racines. Rappelez-vous, ses grands-parents, Abraham et Sarah, ses grands-parents ont fait appel à la première mère porteuse de l'histoire, Agar. Et ça a été un choix motivé par l'incrédulité. Malheureusement, ça a fait rentrer cet esprit de rivalité dans la lignée. Ça commence par la rivalité entre Sarah et Agar. Ça descend sur Ismaël et Isaac. Isaac, la deuxième génération, répercute ça dans son foyer. La rivalité dans un couple, c'est assez ordinaire, mais c'est souvent catastrophique. En l'occurrence ici, on voit qu'il y a le fils à papa et le fiston à sa maman. Genèse 25-28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Parce qu'il était vegan. Non, ça je plaisante. Hein. Mais ce qu'on voit dans cette dualité, il y a le fils à papa, le fils à maman, c'est qu'ils sont en compétition les deux parents, ils n'ont pas résolu ce problème. Alors, comprendre les racines, c'est certainement pas pour se justifier ou se déresponsabiliser en mode « Ah mais c'est pas de ma faute, hein. C'est grand-papa Abraham qui, moi je suis pour rien, le pauvre victime. » Non, 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 ça nous amène en fait directement à notre sixième étape. Et ma sixième étape, c'est que c'est ma responsabilité de débarrasser ma vie des influences et des schémas hérités du passé. Si je ne veux pas que ça encombre mon présent, c'est-à-dire mes relations actuelles, ni mon futur, c'est-à-dire le transmettre à ceux qui sont en dessous, que ce soit mes équipiers ou que ce soit mes enfants. Parce qu'on voit que cette troisième génération, justement, elle s'est pris ça de plein fouet. La troisième génération, c'est notre Jacob, justement. La gémellité, déjà. Je trouve que c'est une belle image de cette dualité, n'est-ce pas, le fait qu'il soit jumeau. On voit qu'avant même de naître, il était en compétition avec son frère. La quatrième génération se prend ça de plein fouet aussi, je l'ai dit, c'est celle des fils de Jacob. Et ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est qu'à chaque génération, on voit que ça s'amplifie et que ça prend des proportions de plus en plus grandes. Donc c'est ma responsabilité de désencombrer ma vie de ces schémas du passé. Il n'y a qu'avec Joseph que ça va s'arrêter. Mais Joseph, c'est une figure un peu spéciale qui symbolise le Christ Et on ne voit aucune trace de rivalité entre ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Pourtant, là aussi, il va y avoir un switch. Le cadet va supplanter l'aîné. La mission du cadet sera supérieure à celle de l'aîné. Mais tout se passe avec grâce et avec bienveillance. Tout se passe super bien. Parce que Joseph vraiment symbolise la figure du Christ, cette rupture entre l'ancienne manière de vivre et les schémas qu'on a hérités du passé. Alors, heureusement, dans cette histoire, ce que j'aime, c'est que Dieu ne renonce pas facilement au projet qu'il a pour notre vie. Et qu'il ne renonce pas facilement aux promesses qu'il a déposées sur notre vie. Il attend juste parfois le bon moment. Et là, qu'est-ce qu'il fait avec Jacob ? Ben, il le laisse aller jusqu'au bout de lui-même, ça a pris quelques années. Jusqu'au jour où, pris en sandwich entre son passé, qui le rattrape, la colère d'Ésaü, et son présent, qui le poursuit, la colère de Laban, Jacob accepte enfin de confronter la réalité de sa vie, de ses choix, de ses conséquences. Au risque de tout perdre, hein, c'est un moment crucial pour lui, au risque de perdre sa famille, son patrimoine et même sa vie. Et ça, c'est notre septième étape. Accepter les remises en cause de l'autre, même quand parfois ça ressemble à des reproches. C'est ce moment de l'histoire où il accepte enfin de confronter son frère Ésaü, qui arrive vers lui plein d'une grosse colère, mais bien justifiée si on connaît l'histoire, hein. Il s'est fait trahir. À ce moment-là, Dieu qui est dans le ciel se dit « Ah, Jacob est enfin prêt au changement ». Et on voit Dieu qui revient sur le devant de la scène pour intervenir. Et là, il va se passer un épisode mais vraiment, vraiment étrange. En fait, Dieu qui est un fin pédagogue décide d'aller affronter Jacob sur son propre terrain, celui de la compétition. J'aime trop l'humour de Dieu. Et Jacob est tellement habitué à ce que toutes ses relations soient un jeu de pouvoir qu'il ne réalise même pas l'incongruité de la situation, mais il est en train de se battre contre Dieu lui-même. Dans Genèse 32, 25, c'est écrit « Jacob resta seul et il lutta avec un homme. Lui, il croit que c'est un simple mortel. Il n'a pas compris qu'il est en train de se battre contre Dieu. » Mais la Bible, dans les coulisses, dans Osée 12, 4, nous dit qu'il a lutté avec Dieu. Il a lutté. Ah, c'est tellement révélateur aussi ça. Ça veut dire que des fois, cet autre-là sur mon chemin qui m'agace, qui me freine, qui m'empêche d'avancer. Et si c'était Dieu lui-même, waouh. On voit un simple mortel, comme Jacob, et parfois c'est Dieu lui-même qui se bat avec nous. Parce que là, très clairement, dans ce passage, on assiste à une lutte de pouvoir entre Dieu et Jacob. Qui va gagner ? Alors là, aussi surprenant que ça paraisse, c'est Jacob. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai eu un bug, je me suis dit « Quoi ? Mais c'est pas possible ! Attends, l'homme, cette minuscule fourmi dans l'univers, cette particule-là, Dieu, il a juste à faire « Bouh !» et puis il nous écrabouille. Comment c'est possible que l'homme soit le plus fort dans ce passage ? Moi, ça calait pas avec ma conception de Dieu. Hein. Moi, pour moi, ça aurait dû être « Et au petit matin, cet adversaire mystérieux s'éloigna, car Jacob fut vaincu. » Mais non, c'est bien Jacob qui l'emporte. Alors je me suis dit, mais je ne comprends pas. Je vais demander au Seigneur de m'expliquer. Et puis encore quelque chose qui semble paradoxal dans ce passage. Comment on peut lutter contre quelqu'un, comme Jacob qui lutte contre cet adversaire, et en même temps le retenir et lui demander de nous bénir ? C'est paradoxal ça. Lui, en fait, au moment où il triomphe, au lieu de jubiler, il pleure. Mais qu'est-ce qui se passe là ? En fait, Dieu ne renonce pas facilement à la vision qu'il veut accomplir dans notre vie, ni aux promesses qu'il a déposées sur notre vie. Mais parfois, il nous laisse aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Jusqu'au bout de notre prétention. Et il attend le bon moment. Et parfois, quand tout s'épaissit, comme pour Jacob, c'était la nuit, quand tout devient sombre, que le découragement nous gagne, que la peur nous envahit, comme Jacob, il y avait la peur, que les circonstances deviennent difficiles et nous oppressent, alors il y a un bras de fer qui s'engage, un bras de fer entre Dieu et notre ego. Notre ego, c'est quoi ? C'est ce petit roi à l'intérieur de nous qui est hostile à la souveraineté de Dieu, qui ne veut pas partager son règne et qui tyrannise tout autour de lui. Et parfois, on arrive à ce carrefour où il y a une confrontation entre notre ego et Dieu. Et si on va jusqu'au bout de cette lutte, aussi surprenant que ça paraisse, c'est notre ego qui l'emporte. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus forts que Dieu. Ça veut dire que si je veux continuer à faire les choses à ma façon, à un moment donné, Dieu, qui respectera toujours ma volonté, se retire et s'éloigne. Comme dans le combat avec Jacob. Éphésiens 4, 30 nous met en garde. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a donné. Parce que parfois on peut attrister le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? La présence de Dieu s'éloigne et moi je me sens de plus en plus desséchée. Et peut-être que je continue à venir à l'église, de lire ma Bible ou peut-être même de servir, mais je sais au fond de moi que je carbure à vide et que j'ai plus les ressources à l'intérieur. Et lui, Jacob, il en est là dans ce combat. Et pendant qu'il se bat contre l'Esprit de Dieu, il veut rien lâcher, hein, même si relationnellement sa vie est un désastre. Mais il veut rien lâcher, pourquoi ? Ben, on est comme lui, hein, parce que ses tactiques, elles ont toujours fonctionné. Ça lui a permis de se faire un nom, de s'enrichir. Donc ok, il y a un peu de dommage collatéral du côté des relations, mais quand même, il est devenu un monsieur important maintenant, il est riche, n'est-ce pas ? Et nous, on est pareil parfois avec nos stratégies, pour susciter l'admiration, pour plaire, pour gagner l'approbation des autres, pour se sentir exister ou important, on met en route toutes sortes de stratégies relationnelles, peut-être des jeux de pouvoir, mais tout ça, ça parasite des relations vraies, sincères, profonde et authentique. Tous ces jeux de pouvoir parasitent des bonnes et des saines relations. Et Jacob, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue sur la scène ce qui se passe dans le secret de nos cœurs. Hein. Dieu veut que nous vivions des relations vraies, profondes, sincères et authentiques. Qu'il s'agisse de nos familles, qu'il s'agisse de notre communauté. Jean 13, 35, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Dans ce combat entre Dieu et Jacob, à un moment donné, on voit que Dieu est sur le point de renoncer. Jacob semble avoir gagné, certes. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est paradoxal, c'est qu'au lieu de jubiler, il s'accroche à son adversaire. Et alors là, il se passe encore une scène que je trouve étrange. Parce que il veut que son adversaire le bénisse. Donc je pense que là, il commence à avoir une intuition spirituelle de ce qui se passe là. Mais Jacob lui demande son nom. Cet adversaire ne répond pas. Mais ce qui est étrange, c'est que cet adversaire mystérieux, nous, on sait qui c'est, on sait que c'est Dieu, hein, demande son nom à Jacob. Alors là, je me dis de nouveau, je ne comprends pas. Enfin, Jacob, le Seigneur le connaît bien. Il le connaît avec tout ce qu'il fait pour se donner de l'importance. Il le connaît, il est en train de lutter contre lui. Pourquoi il lui demande son nom ? C'est un non-sens pour moi. En fait, il y avait un jeu de mots avec son prénom, le prénom de Jacob. Et quand Dieu demande à Jacob de se nommer, c'est comme s'il lui demandait de se définir. C'est comme s'il voulait qu'à cet instant précis, Jacob reconnaisse qui il était vraiment. En mode, pousse, ok, c'est bon, je joue plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis cet homme rusé, filou, un peu poltron, un peu arriviste. Ouais, c'est vrai, je suis beaucoup plus préoccupé par moi que par les autres. Je suis beaucoup moins concernée si mon attitude sème de la discorde autour de moi. En fait, quand Jacob va dire « je m'appelle Jacob » à cause de ce jeu de mots dans son nom, c'est comme s'il reconnaissait qui il était vraiment devant Dieu. Et quand il dit ça, il fait face à lui-même. Il est lucide, il est honnête. Et franchement, ce n'est pas très très brillant le constat. Sauf que j'aime chez Jacob, c'est qu'il a la trempe des vrais leaders. C'est-à-dire qu'il a le courage de regarder ce qui est dans son cœur, même quand ce n'est pas joli, joli. Et à cause de ce courage qu'il a, ça va permettre le miracle de Dieu dans sa vie. Parce qu'il est arrivé à ce que j'appelle le point zéro. Le point zéro, c'est celui où tout s'inverse. C'est la fin d'un style relationnel et l'émergence de tout un nouveau style relationnel à ce moment-là. D'ailleurs, on voit que l'impact sera immédiat, puisqu'on va assister dans la suite de l'histoire à cette réconciliation entre les deux frères ennemis. Je disais tout à l'heure que derrière cette rivalité qui anime chaque fait et geste de Jacob, se cachait une problématique d'identité. En fait, quand Dieu lui dit, après cette confrontation dans Genèse 32, 29, dorénavant, tu t'appelleras Israël, c'est-à-dire prince de Dieu, il est en train de lui donner une nouvelle identité. Il fait une substitution entre, ok, je suis ce Jacob, ce filou, un peu rusé, un peu arriviste, et dorénavant, tu es un prince de Dieu. Et quand Dieu fait cet échange, quand Dieu le définit, il est en train de lui dire, mais ton identité n'est plus celle d'un petit supplanteur, d'un petit arriviste ou d'un ambitieux. Parce que maintenant, tu es un prince de Dieu, ça veut dire tu n'as plus besoin de lutter pour obtenir parce que tu es. Tu n'as plus besoin de faire des stratégies pour obtenir parce que tu es. Tu n'as plus besoin de te battre pour exister parce que tu es. Et si on regarde dans Osée 12, au verset 7, Osée 12, de 4 à 7, décrit cette histoire de Jacob. Dieu continue dans ce tête-à-tête qu'il a eu avec Jacob. Il dit, « Maintenant, ô Jacob, reviens donc à ton Dieu, pratique l'amour et le droit. » Et compte en tout temps sur ton Dieu. Revenir à son Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire arrête de compter sur toi. Pour être vu, pour être apprécié, pour être remarqué, pour passer devant les autres, pour entrer à tout prix dans ta destinée. T'as plus besoin. Parce que moi, je tiens tout ça à ta disposition. Et même plus encore. Seulement toi, est-ce que t'es prêt au changement ? Et là, c'est le dernier point, le plus crucial pour moi. Le dernier point, c'est qui te définit ? En fait, nous sommes tous pareils. Nous avons appris à nous définir nous-mêmes en fonction des autres. Seulement Dieu veut nous amener à un autre niveau de maturité où nous allons le laisser nous définir lui-même. C'est lui qui va nous définir. Et Dieu nous invite. Et il nous invite parfois dans un corps à corps, comme avec Jacob. Parfois, c'est dans une lutte. Mais il nous invite dans cette intimité pour recevoir notre nouvelle identité en lui. Il nous invite à renoncer à toutes nos stratégies pour nous sentir ou être important aux yeux des autres, parce qu'il tient tout ça à notre disposition. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à laisser Dieu te définir ? Quand on arrive à ce point zéro, quand on reconnaît comment on fonctionne et qu'on accepte d'y renoncer et qu'on découvre sa véritable identité en Dieu, alors c'en est fini de la comparaison, de la compétition, de toutes ces luttes de pouvoir qui empoisonnent les relations. C'en est fini, pourquoi ? Simplement parce qu'à ce moment-là, la rivalité n'a plus de prise dans ton cœur. Tu n'as plus la même identité, tu n'es plus en train de lutter pour exister ou pour obtenir. Alors la suite d'Osée, quand il nous dit « Maintenant, pratique l'amour et le droit », ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste « aime ». Aime de manière concrète. Aime, manifeste la bonté dans tes relations. Manifeste la justice dans tes relations. Aime. Parce que tant que tu rivalises avec l'autre, en fait, tu n'aimes pas. Tant que tu cherches à obtenir, tu n'aimes pas l'autre. Tant que tu manipules pour prouver, tu n'aimes pas. Tant que tu te sers des autres pour avoir, mais tu n'aimes pas. Alors que maintenant, ce que j'attends de toi, Jacob, c'est pratique l'amour et le droit. Ça, c'est ta part. Et le verset conclut en disant, pour avoir, enfin, il conclut en disant, et en tout temps, compte sur ton Dieu. Ça veut dire pour avoir, pour obtenir, pour prouver, pour exister, pour réussir. Compte sur moi, compte en tout temps sur moi. C'est plus ton job, ça. T'es un prince. C'est ta nouvelle identité. Et ça, c'est vraiment le point le plus capital pour moi. C'est qui va me définir dorénavant. Jusqu'à présent, c'est moi qui ai appris à me définir. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu es prêt à relever ce challenge de rentrer dans ce corps à corps avec Dieu et de ne plus le lâcher, même si c'est un bras de fer avec lui, jusqu'à ce que tu sois pleinement sécure dans ta nouvelle identité. Ne cesse jamais de compter sur moi, dit Dieu. À ce moment-là, quand tu as désencombré tes relations de la rivalité, tu commences à établir des relations saines avec les autres, ou comme disait Pascal ce matin, à être en capacité d'aimer les autres, mais d'un amour désintéressé et inconditionnel. Je vous propose de conclure en fermant les yeux et de vous recueillir juste un instant. Et j'aimerais faire deux invitations. La première invitation, c'est si tu t'es reconnu dans Jacob. Peut-être que tu connais Dieu, que tu réussis ce que tu entreprends. Simplement, si tes relations s'effritent, si elles se disloquent, peut-être que tu connaîtras la réussite sociale ou matérielle, mais ton cœur ne sera jamais satisfait. Parce que Jacob, lui aussi, prospérait. Mais ses relations, elles étaient dans un piteux état. Et il n'était pas heureux. Et tout le monde le sait bien que ce n'est pas le succès qui rend heureux, mais c'est l'amour dans nos relations qui réchauffe et qui nourrit nos cœurs. Alors, peut-être que tu traverses toi aussi cette fameuse nuit de Jacob. C'est comme si tu luttais contre quelque chose, que les autres étaient toujours un obstacle pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Et si c'était Dieu qui voulait t'inviter à un autre niveau ? Peut-être que tu es comme Jacob, tu veux en finir avec la rivalité et t'es prêt à renoncer à tes stratégies de contrôle et de pouvoir pour plaire ou pour avoir. Peut-être que tu veux, comme Jacob, ne plus être cette identité qui t'a construit jusqu'à aujourd'hui, mais tu veux trouver dans l'intimité avec Dieu ta véritable identité. Ça, c'est ma première invitation. Si tu te reconnais dans une partie de l'histoire de Jacob et que tu veux aujourd'hui que les choses changent, j'aimerais prier avec toi. Alors je t'invite à lever ta main. Les yeux sont fermés, c'est juste entre toi et Dieu. Mais en priant pour toi, je vais bénir ta démarche et ton courage maintenant pour entamer ce nouveau changement de vie. Je vous vois, oui. Ouais, je vous vois. Ouais. Ouais. Ceux qui n'ont pas osé lever la main, vous pouvez faire cette prière dans votre cœur. Seigneur, tu es celui qui veut nous établir dans notre identité de prince et de fille, de fille et de fille, de fils et de fille de Dieu. Seigneur, tu vois ceux qui ont eu l'audace de lever la main et qui sont à ce carrefour de leur vie. Je bénis leur démarche, Seigneur, et je prie maintenant que quelque chose soit scellé dans leur cœur. Seigneur, qu'ils repartent de ce tête-à-tête avec toi en étant pleinement sécurs sur qui ils sont. Ils n'ont plus besoin de se prouver ou de prouver quoi que ce soit parce que tu leur as donné cette nouvelle identité. Seigneur, je prie pour que maintenant il y ait un changement qui se passe dans leur vie et que leur relation soit métamorphosée, tout comme tu as métamorphosé la relation de Jacob et d'Ésaü. Tu les as réconciliés. Seigneur, que le bénéfice sur toutes leurs relations soit juste phénoménal et énorme, qu'ils puissent manifester ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. et j'aimerais faire un deuxième appel. Peut-être que tu t'es reconnu plutôt dans le profil d'Ésaü. Peut-être qu'aujourd'hui tu es venu par curiosité, quelqu'un t'a invité. Et jusqu'à présent, pour toi dans ta vie, tu étais plus préoccupé par le quotidien que de te préoccuper des choses spirituelles. Et peut-être que comme Ésaü, il y a des choses que tu as laissé tomber de côté pour un plat de lentilles. Et si aujourd'hui tu t'es reconnu dans Ésaü, j'aimerais te faire un appel. Aujourd'hui, tu peux inverser le cours de ta vie. Tu peux décider aujourd'hui de renouer ta relation avec Dieu, de te réconcilier avec Dieu parce que c'est la base de toutes nos relations. Et si tu réalises que jusqu'à présent, tu n'as pas fait les bons choix, Dieu n'attend qu'une chose, pour déverser son amour et sa faveur sur ta vie, c'est que tu le veuilles. C'est juste que tu le veuilles, il a fait tout le chemin. Alors si aujourd'hui tu veux renouer avec Dieu et tu veux de nouveau rentrer dans cette dimension spirituelle à laquelle tu as tourné le dos, c'est ton moment maintenant pour toi. Et pour cela, je vais te proposer à toi aussi de lever ta main. Tout le monde a les yeux fermés, personne ne te voit. C'est entre toi et Dieu. Mais c'est maintenant ton moment. Si tu t'es reconnu dans Ésaü et que tu veux... Oui, je te vois. Et que, oui, si tu t'es reconnu dans Ésaü et que tu veux maintenant que ta vie prenne un autre cours, que tu veux maintenant que la bénédiction de Dieu coule sur ta vie, à toi de te réconcilier avec lui. On va prier ensemble. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Oui. On va prier ensemble, on va prier tous ensemble. Je vais demander à l'église de se lever. Et pour ne mettre personne mal à l'aise, on va répéter tous ensemble. Je vais te guider, je vais vous guider avec des mots. Et tout le monde va répéter. Aujourd'hui, mon Dieu, je veux me réconcilier avec toi. Merci d'avoir envoyé ton fils Jésus. De l'avoir envoyé sur la croix à mourir à ma place. Pour que je puisse me réconcilier avec toi. Je crois qu'il est ressuscité. Que grâce à lui, aujourd'hui, je reçois le pardon de mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je décide de faire ma vie avec Jésus. Je veux qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur. Aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.
Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter www.hillsong.fr.